Vous savez quoi? On se pose, tranquille, on se détend, on fait le point avec ses orteils et on écoute Radio Bois Blanc.
Écoute, c'est du cinéma. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Et figurez-vous que le 25 décembre, c'est Noël. Pour l'occasion, à Radio Bois Blanc, on s'est lancé le défi suivant, remonter le temps, pour vous faire découvrir 10 films sur le sujet de Noël au cinéma.
Vous m'emmenez en balade, monsieur ?
10 films qu'on aime. 10 films pas piqués des hannetons. 10 films nickel chrome de Derrière les fagots. Une émission proposée et réalisée par William Langlois et écrite par Alexis Majenham. Maintenant, installez-vous confortablement, laissez-vous transporter à la vitesse de 88 miles à l'heure pour remonter le temps. Fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix. Notre retour vers le futur, le 18 décembre 1946, à Cincinnati, dans l'Ohio, pour assister à la naissance de celui qui réalisera le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, avec un animatronique dénommé Bruce, également un film sur un extraterrestre amateur de bonbons, une série de films sur un professeur d'histoire, deux films sur un parc d'attractions à la sécurité discutable. Bref, nous pourrions continuer de faire la liste des succès de Steven Spielberg, mais cet extrait musical vaut vraiment tous les joyeux Noël. Thank you. Si Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946, deux jours plus tard sort notre plus beau film de Noël, La vie est belle, réalisé par Frank Capra. Dans la petite ville de Bedford Falls, c'est la veille de Noël et George Bailey, interprété par le mythique James Stewart, est sur le point de se suicider en se jetant du haut d'un pont. Mais au paradis, l'apprenti ange gardien, Clarence, va bientôt venir à son aide pour gagner ses ailes. Et pour qu'il fasse mieux son travail, un long flashback l'informe de la vie de George Bailey.
I owe everything to George Bailey. Help him, dear father. Joseph, Jesus and Mary, help my friend, Mr. Bailey.
Je dois tout à George Bailey. Mon Dieu, aidez-le.
Jésus, Marie, Joseph, venez en aide à mon ami, Monsieur Bailey.
Secourez mon fils, George, cette nuit.
Seigneur, il ne pense jamais à lui. C'est pour ça qu'il a des ennuis.
George est un brave garçon. Donnez-lui un coup d'épaule.
Oh, mon Dieu, je l'aime. Veillez sur lui cette nuit.
Je vous en prie, mon Dieu, faites quelque chose pour papa. Emmenez-nous, papa, s'il vous plaît.
Alors, Joseph, des ennuis?
Il va falloir faire descendre quelqu'un sur la terre. De nombreux fidèles demandent qu'on aide un nommé George Bailey.
George Bailey? Ah oui, cette nuit est cruciale pour lui. Nous allons envoyer quelqu'un immédiatement. De qui est-ce le tour?
Je suis venu vous voir justement à ce sujet. C'est encore le tour de cet horloger.
Oh, oh Clarence, il n'a pas encore ses ailes, n'est-ce pas?
Nous avons déjà reculé son tour. Vous en connaissez la raison. Il n'a pas plus de cervelle qu'un oiseau.
Oui, mais il a la foi d'un enfant. C'est un cœur pur. Joseph, faites venir Clarence.
Vous m'avez fait demander?
Oui, Clarence. Un homme sur la terre a besoin de notre aide.
Quelle chance! Il est malade?
Non, c'est pire. Il n'a plus de courage. À 22h45, exactement heure de la terre, il songera sérieusement à se défaire du don le plus précieux de Dieu.
Oh, doux Jésus, sa vie. Alors je n'ai qu'une heure pour m'habiller. Que porte-t-on à l'heure actuelle?
Vous passerez cette heure à faire la connaissance de George Bailey.
Et si je réussis dans cette mission? Peut-être gagnerai-je mes ailes.
Clarence, si vous réussissez auprès de George Bailey, vous aurez vos ailes.
Oh, merci, merci, merci.
Suite à ce flashback, Clarence se jette lui-même du haut du pont, ce qui amène George à le sauver. Il confie alors à Clarence qu'il souhaiterait n'être jamais venu au monde, ce que Clarence prend au mot en le projetant dans un monde où il n'aurait jamais existé.
Dites donc, je ne sais pas si j'aimerais beaucoup être vu en ville en compagnie d'un ange qui n'a pas d'aile.
Oui, il faut que je les gagne. Et je suis sûr que vous m'aiderez.
Ouais. Oui, entendu. De quelle façon?
C'est facile, en me laissant vous aider.
Oui. Si vous voulez m'aider, il n'y a qu'un moyen. Vous n'auriez pas dans votre poche 8 000 $?
Oh non, on ne se sert pas du tout d'argent au ciel.
Ah, c'est vrai. J'oublie tout le temps. Eh ben, mon vieux, sur Terre, ça rend des services tout de même. Je m'en suis rendu compte trop tard. Je vaudrais plus mort que vivant.
Je vous défends de parler encore de suicide. Je ne gagnerai jamais mes ailes si vous continuez ainsi. Vous ignorez quelle influence vous avez eue sur Terre. Si vous n'aviez pas été là il y a longtemps...
Oui, si je n'étais pas venu au monde, je sais bien que beaucoup s'en seraient mieux trouvés. Ma femme d'abord, et ensuite mes enfants. Écoutez, mon ami, allez donc garder un autre mortel à qui ça plaira.
Non, vous êtes dans l'erreur. J'ai une mission à remplir.
Non, je vous en prie, assez.
C'est Noël. Nous sommes dans un intérieur bourgeois en Suède, chez la famille Ekdal. Une famille qui travaille dans le monde du théâtre. Un jeune garçon, nommé Alexander, est assis près d'un petit théâtre de figures en papier. La rampe est faite de bougies et il se plaît à déplacer les petites figurines, l'air pensif. Puis il se lève et appelle sa famille dans une maison désertée de toute présence. Au dehors, on allume les réverbères dans une rue enneigée. Le titre apparaît en lettres blanches. Fanny Ock Alexander. Un film d'Ingmar Bergman. Nous sommes en 82 quand sort ce film, le dernier du réalisateur pour le cinéma. Suite à l'annonce du titre, le réveillon bat bientôt son plein, on fait des discours émus, on chante, on danse, on est généreux sur la bonne chair que l'on arrose sans y regarder à deux fois. Pour une famille débordante de vie, et d'amour. Mais tout cela n'a qu'un temps. Le père de Fanny et Alexander succombe d'une crise cardiaque alors qu'il répète le rôle du fantôme dans Hamlet de Shakespeare. Et la mère se remarie bien vite avec un évêque luthérien, pour le moins sévère et peu aimable. L'intérieur bourgeois déserté qui ouvre le film est alors traversé par le fantôme du père que voit un jeune Alexander, et la demeure austère de son beau-père devient une prison sous surveillance des domestiques. Avec ce film, on se croit volontiers à Elsener, la demeure du prince Hamlet, et Bergman est alors pareil à cet enfant qui ouvre l'histoire, s'amusant avec les figures en papier de la pièce de Shakespeare, pour mieux raconter cette fable sur l'enfance où l'on croise les thèmes chers au réalisateur, la maladie, le deuil, l'amour. Et tout cela s'achève avec la lecture d'une nouvelle pièce par la grand-mère qui s'apprête à retourner sur les planches. Alexander est blotti, la tête contre ses genoux, et écoute les premières répliques du songe, un jeu de rêve d'August Strindberg.
Alt kan ske, allt är möjligt. Och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster.
Nous sommes en 1988.
Vous voulez un truc infaillible pour vous remettre du mal de l'air? Dès que vous arrivez à destination, vous ôtez vos chaussures, vos chaussettes, et vous faites les 100 pas sur la moquette de préférence, et vous faites le point avec vos orteils.
Le point avec les orteils?
Ah oui, c'est ça. Oui, je sais, ça a l'air dingue, mais faites-moi confiance, ça fait 9 ans que je pratique ce truc. Et c'est plus efficace qu'une douche et un café chaud.
Merci.
C'est encore une fois la veille de Noël et l'inspecteur new-yorkais John McLean.
Sœur Teresa m'appelait Monsieur McLean à la maternelle. Mes amis m'appellent John.
Joué par Bruce Willis et doublé par le regretté Patrick Poivet, arrive à Los Angeles dans l'espoir de se réconcilier avec son épouse
Holly McLean,
qui passe le réveillon sur son lieu de travail, le Nakatomi Plaza.
Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête.
Une tour qui sera bientôt attaquée par Hans Gruber et ses acolytes peu sympathiques.
Je vous trouve bien gênant pour un gardien de la sécurité.
Désolé Hans, vous avez perdu, il y a erreur sur la personne.
Ce qui permettra à John McLean de marcher pieds nus sur du verre brisé.
Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur.
De ramper dans des conduits de ventilation.
Maintenant je sais
ce qui est pour un lapin dans son terrier.
D'écrire sur son bras les noms de la fine équipe de braqueurs et de partager une réplique culte héritée d'un vieux film.
Qui êtes-vous ? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant ? Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon ?
J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées.
Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ?
Yippee-ki-yay, pauvre con.
Mais pas seulement. John McClane, c'est aussi ça. Puis ça.
Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tâche de trouver ma femme. Je sais pas comment tu te débrouilleras. Dis-lui que j'ai mis du temps à comprendre que j'ai été un imbécile. Mais... que... je me rends compte que quand les choses ont bien tourné pour elle, j'aurais dû avoir plus de compréhension et... j'aurais dû l'aider et l'encourager. Mais... tu es que... quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un paumé comme moi ? Je crois bien que j'ai dû lui dire au moins 1000 fois « je t'aime », mais jamais je ne lui ai demandé pardon. Et c'est ça que je veux que tu lui dises. Je veux que tu lui dises que John a dit qu'il lui demande pardon. D'accord ?
Et encore ça ?
Je sais pas qui fait le plus cow-boy de nous deux, Hans.
Hey. Et qu'est-ce que vous m'avez dit la dernière fois ? Yippee-ki-yay, pauvre con.
Allez !
Bref, pour ce premier Die Hard, intitulé en français « Piège de cristal », le réalisateur John McTiernan s'amuse comme à l'accoutumée avec la figure du héros viril
sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Dont il place les aventures dans un espace vertical.
Jamais plus, je ne mettrai les pieds dans un gratte-ciel.
Bien que Los Angeles soit une ville réputée pour son étendue horizontale. Facétie que le réalisateur reprendra en 1995 avec Die Hard with a Vengeance, intitulé en français « Une journée en enfer ». Les aventures de McClane se déroulant cette fois-ci à New York, une ville réputée pour son aspect très ramassé, verticale, faite de gratte-ciel qui ont fait les beaux jours du cinéma, ce qui n'empêche pas McTiernan de restreindre son histoire à une horizontalité étonnante, en faisant courir son héros, accompagné pour l'occasion de Samuel L. Jackson, dans les rues et les parcs de la ville pour une partie de Jacadi.
Allô ?
Oiseaux d'un même nid, gorets d'une même portée. Le chat et la souris, comme moi, vont jouer.
Très joli. En vert en plus.
Pourquoi est-ce que ça s'en est occupé ? À qui téléphoniez-vous ?
À SOS, Zinzin.
Tu as tort de plaisanter, John.
C'est une cabine publique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Tu réponds simplement qu'une grosse femme téléphonait et qu'il t'a fallu une minute pour la faire accrocher. Maintenant, écoute-moi. Une grosse quantité d'explosifs se trouve dans la poubelle sur laquelle est assis le Samaritain. Si vous tentez de fuir, elle explosera immédiatement.
On n'a pas l'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici.
C'est là tout l'intérêt. Puis-je avoir votre attention ? Me rendant à Notre-Dame, je suis un homme à 7 femmes. Chaque femme ayant 7 sacs. Chaque sac contenant 7 chattes. Chaque chatte ayant 7 chatons. Chatons, chattes, sacs et femmes. Combien seront-elles à Notre-Dame ? Pour me joindre, faites 555...
Non, on n'a rien compris. Attends, redis ça encore.
Pas question. Mon numéro est le 555.
Mais je te dis
de la réponse à ma devinette. Appelez-moi d'ici 30 secondes ou vous mourrez.
Nous l'avons déjà évoqué, mais cette fois, marquons un arrêt en 1990 pour revoir ce qui est sans doute le film de Noël de toute une génération. Un petit jeu. De quel film s'agit-il ?
Just like the ones I used
heads up, listen, hey. Children, listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But in night, I am dreaming, oh, I'm.
Vous avez trouvé?
Et je me bourre de gâteaux, je regarde plein de films, je pense que vous feriez mieux de venir.
Tu reviendras quand il en sortira. En attendant, je vais quand même te filer quelque chose, Snakes. Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse hors de chez moi, sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12.
Très bien, Johnny, pardonne-moi. Je pars tout de suite.
1, 2, 10.
C'est sûr?
Joyeux Noël, mon petit biquet. Nous savons que tu es ici et que tu es tout seul, cher enfant.
Eh oui, allez, mon garçon, ouvre la porte. C'est le Père Noël. Il va te gâter. Ne crains rien, on ne te fera pas de mal. Non, non, on a plein de petits cadeaux pour toi. Allez, obéis maintenant et ouvre cette porte.
Là, vous l'avez. Il s'agit bien évidemment de « Maman, j'ai raté l'avion » de Chris Columbus.
Ce petit fumier m'a touché au poisson.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Film familial emblématique et l'un des films de Noël les plus appréciés, doit-on vraiment vous résumer l'histoire de
Kevin,
qui a été oublié par sa famille, qui va passer les fêtes de Noël à Paris. Qui, au lieu de prévenir les forces de l'ordre ou ses voisins, va profiter d'être seul chez lui pour faire les 400 coups, jusqu'à ce que les cambrioleurs tentent de vider la maison qui sera piégée par ses soins.
Kevin ?
Nous allons plutôt écouter la musique, qui correspond au retour de la mère de...
Kevin !
Une musique composée par John Williams.
Kevin ?
En 1991, Lars von Trier réalise Europa, troisième volet de sa trilogie sur l'Europe après Element of Crime et Epidemic. Un film qui a de nombreuses particularités, comme celle d'avoir comme interprète principal l'acteur Jean-Marc Barr, ou comme celle d'avoir comme narrateur le formidable et très regretté Max von Sydow. Et avant d'aller plus loin, tout de suite, un extrait, les premières minutes de repas, ou comment hypnotiser le spectateur avec la voix d'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma.
You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed and receptive. I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. 5. The warmth is spreading to the whole of your body. On 6, I want you to go deeper. I say 6. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. 7. You go deeper and deeper and deeper. 8. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10.
Le film raconte l'arrivée de Leopold Kessler, un Américain d'origine allemande, à Francfort en 1945, dans une Allemagne ravagée par la défaite du régime nazi et par l'armée américaine. Grâce à son oncle, Kessler décroche un travail de contrôleur des wagons-lits pour la compagnie ferroviaire Zentropa. Le film est en noir et blanc, mais s'autorise quelques touches de couleur quand cela s'impose. Il place son personnage principal dans un véritable récit kafkaïen, perdu entre l'absurdité administrative de la compagnie Zentropa, les ravages de la guerre, d'anciens nazis que l'on appelle des loups-garous, et un amour naissant avec une certaine Katharina. Un film qui nous fait également vivre le réveillon de Noël 1945 avec des chants traditionnels, et surtout, une messe de minuit dans une église dévastée à ciel ouvert et battue par la neige où résonne une variation du thème principal de Vertigo, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, mis en musique par Bernard Herrmann.
Sanguis Domini nostri, Jesu Christi,
garbo et sanabitur anima mia.
Nom de Zeus.
Et maintenant. Tom Cruise et Nicole Kidman nus, enlacés, s'embrassant passionnément devant un miroir alors que résonne la chanson de Chris Isaac. C'est en 1999, l'ouverture du dernier film de Stanley Kubrick, qui décède la même année. Un film testamentaire donc, Eyes Wide Shut, l'adaptation de la nouvelle Traum Novel d'Arthur Schnitzler, publiée en 1926, et La Nuit d'errance pour le docteur Bill Harford, après avoir entendu la confession de sa femme sur un désir d'adultère. Bill cherche donc à tromper sa femme, mais assiste finalement à une orgie très sectaire où le port du masque est obligatoire. Les mésaventures de Bill trouveront finalement une explication peu convaincante.
Bill. Imagine que je te dise que tout ce qui a pu t'arriver à cette soirée, les menaces, la fille qui t'a mis en garde, son intervention de dernière minute, imagine que je te dise que tout ça, c'était du théâtre. Une sorte de mascarade. Que c'était du bluff.
Du bluff?
Oui. Du bluff.
Pourquoi aurait-il fait ça?
Pourquoi? Je te parle franc. Pour te foutre la pétoche de ta vie. Que tu fermes ta gueule sur ce qui s'est passé et sur où ça s'est passé.
Bill retrouve ensuite sa femme pour une scène finale dans un magasin de Noël. Une scène qui conclut parfaitement une filmographie essentielle et sans fausse note, composée de chefs-d'œuvre qui continuent de marquer l'histoire du cinéma. Une scène que voici dans son intégralité.
C'est joli.
Tu peux mettre Sabrina là-dedans?
Oui.
Oh là là, c'est beau.
C'est de l'ancien temps. C'est un monstre.
J'aimerais bien que le Père Noël m'en apporte un comme ça.
Ah oui?
Oui.
Eh ben, on va voir ce qu'il va faire.
Alice. Chérie. Comment tu vois ça entre nous?
Comment je vois ça entre nous?
Regarde, maman.
Comment je vois ça? J'en sais rien. là, il faut peut-être... Peut-être... Je crois que nous devrions être reconnaissants. Reconnaissants parce que nous sommes arrivés à survivre à toutes nos aventures. Qu'elles aient été réelles ou seulement un rêve.
Tu es sûr de ça?
Si, j'en suis sûr. Oh. Si tant est que je puisse être sûre que la réalité d'une simple nuit, et à plus forte raison celle de toute une vie, puisse être toute la vérité.
Et qu'aucun rêve ne soit jamais qu'un simple rêve.
L'important, c'est que nous soyons réveillés. Et espérons-le. Pour un très long moment.
Pour toujours.
Pour toujours.
Pour toujours.
Non, n'utilisons pas ce mot. Il me fait peur. Mais... ce qui est sûr, c'est que je t'aime. Je vais te dire. Il y a une chose très importante. Et ça, il faut le faire le plus vite possible.
Quoi?
Baiser.
Marty! Il faut que tu repartes avec moi!
Où ça?
Mais vers le futur!
En 2003, un soir de Noël à Tokyo, Jean, un homme ruiné, Anna, une femme transgenre, et Miyuki, une adolescente fugueuse, vivent dans la rue.
Cette fois, tu as dépassé les bornes. Tu as besoin d'une correction et je vais te l'infliger.
Même mon père n'a jamais osé lever la main sur moi.
Non, je vais me faire un plaisir de m'en charger dans ce cas. Non.
Aïe, grandis un peu, t'es ridicule. On te l'a jamais dit.
Ne vous faites pas mal.
Qui va me respecter de gré ou de force, sale môme?
Je suis pas une môme, t'entends?
Avec d'aussi petits seins, c'est pas demain que tu seras une femme.
Je suis un rêve, espèce de sale pervers!
Vous allez arrêter, oui ou non?
Ça suffit maintenant.
Non!
Arrête! Qu'est-ce qu'on entend? Vous entendez?
Les trois sans-abri trouvent au milieu des ordures un bébé, ainsi qu'une clé de consigne de gare. Oh. C'est alors qu'il décide de retrouver la mère du bébé dans un Tokyo enneigé.
Petit chat, ne pleure pas comme ça.
Prenez soin de cet enfant. De plus en plus d'enfants souffrent. Comme le monde est triste et cruel, c'est déprimant.
Oh mon Dieu, tu es une petite fille. Je me demande comment tu t'appelles.
On n'a qu'à l'appeler John comme tout le monde.
C'est une petite fille, je viens de le dire, idiot. Quel goujat.
J'avais quel âge lorsque j'ai commencé à vivre dans la rue? Je devais bien avoir une trentaine d'années.
Et alors?
Je persiste à penser que malgré tout, j'ai beaucoup plus de chance qu'un enfant sans abri en cette nuit.
Là, là, mon bébé, on va trouver un endroit douillet où tu pourras dormir et faire de jolis rêves.
Le commissariat de police est par ici.
C'est Dieu qui nous a envoyé un merveilleux cadeau de Noël. Une petite fille jolie comme un cœur.
Commence alors une formidable aventure qui les confrontera à leur passé respectif. Voici l'histoire de Tokyo Godfathers, le troisième et avant-dernier film d'animation de Satoshi Kon, un réalisateur dont nous vous conseillons absolument tous les films. En 2004, le réalisateur Wong Kar-wai imagine une suite à son chef-d'œuvre In the Mood for Love, sorti 4 ans auparavant, avec le film 2046. On y trouve donc Monsieur Cho, qui est maintenant un écrivain en mal d'inspiration, tentant de boucler un récit d'anticipation se déroulant en 2046. Mais 2046, c'est également le numéro d'une chambre d'hôtel, celle qui conclut In the Mood for Love et celle dans laquelle Monsieur Cho a vécu quelques années et dans laquelle il se souvient des femmes qu'il a aimées. C'est un film somptueux qui mêle avec poésie et adresse l'anticipation fantasmée, les souvenirs qui se fraient un chemin dans la fumée bleutée d'une cigarette et un présent rythmé par des réveillons de Noël plutôt solitaires. Nous avons choisi un réveillon de Noël qui se déroule en bonne compagnie. Tony Leung, Song Si-hee et The Christmas Song par Nat King Cole.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols.
Vous rentrez tôt? C'est Noël? Vous ne réveillonnez pas avec votre petite amie?
Je n'ai pas de petite amie.
Je vous invite à dîner.
Vous n'arrêtez jamais. Et vous, vous ne sortez pas? Avec l'une de vos nombreuses amies? Ça me surprend.
Je ne peux pas sortir avec toutes. Pour qu'il n'y ait pas de jalouse, je ne sors avec aucune. Ne restez pas ici toute seule, vous allez déprimer.
Je ne suis pas d'humeur à sortir. Vous n'avez pas peur que je boive et que je me remette à vous gifler?
Peu importe. Si me gifler vous plaît tant, alors ce sera mon cadeau de Noël. Allez.
Bah les pattes!
So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times.
Si j'avais su que je passerais Noël à Hong Kong,
où pensiez-vous le passer?
On devait partir tous les deux. Il devait m'emmener à Singapour. Il disait qu'il y faisait moins froid. Je ne me suis donc pas acheté de robe d'hiver. Et je passe Noël en tenue d'été.
En 2008, à Roubaix, nous retrouvons celui qui est à nos yeux le réalisateur français le plus important de ces 20 dernières années, avec des films comme Roi et Reine, Jimmy P, Trois souvenirs de ma jeunesse, ou Roubaix, une lumière. Des films qui aiment emprunter au cinéma d'Hitchcock, des films qui ont révélé des actrices et des acteurs fameux, comme Mathieu Amalric ou Emmanuel DeVos, des films qui n'hésitent pas à travailler une langue, un style, une manière d'être au monde, propre au réalisateur.
Cette maison appartient à mon mari.
Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Au fil des années, nous avons fait bien des travaux et la maison est devenue très confortable. Abel et moi sommes âgés aujourd'hui et nous y habitons toujours. Ça, c'est le fauteuil où Abel aime lire son journal. Et ça, c'est la petite table où j'écris ma correspondance. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et mes petits-enfants vont jouer au grenier comme leurs parents le faisaient à leur âge. Mais il y a 5 ans, ma fille aînée Elisabeth a banni son frère Henri et la maison est devenue un peu moins vivante. Cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. Mon petit-fils Paul a des difficultés en ce moment et nous nous préparons à l'accueillir. De l'hôpital, notre médecin a lancé une recherche auprès d'une banque d'organes à San Francisco pour me soigner. Et avec Abel, nous cherchons toujours un donneur compatible.
Hey, papy ! Mamie, ils nous ont fait la piqûre, j'ai été à l'hôpital ! J'ai rien senti, j'ai pas pleuré. Mamie, quand tu me portais l'aiguille, j'ai rigolé.
Je crois qu'on va voir des cicatrices.
Allez, garçon !
Non !
Allez, accrochez vos manteaux.
Je suis impressionné, hein, vous êtes des vrais hommes, maintenant.
Ah, Baptiste a dit quelque chose de très amusant, médecin.
Ah oui, dis-le, vas-y. Allez, dis-le.
Allez, dis-le.
Alors,
j'ai dit, délivre-moi, bande d'assassin.
Oh, et tu as pleuré, mon amour. C'est bien. Allez, rangez vos manteaux.
Nous parlons d'Arnaud Desplechin et de son film Un conte de Noël, sous-titré Roubaix, avec un point d'exclamation. On y raconte la réunion, pour Noël, de la famille Vuillard suite à la maladie de Junon, la mère, à qui on a diagnostiqué un lymphome nécessitant une greffe de moelle osseuse. Abel et Junon avaient eu un premier enfant, Joseph, qui était mort très jeune de la même maladie. Cet enfant nécessitait un donneur compatible, et comme leur fille, Elisabeth, ne l'était pas, Abel et Junon eurent un troisième enfant, Henri, ce qui n'empêcha pas le décès de Joseph. Rajoutons à cela une intimité entre Elisabeth et Henri, qui amena celle-ci à exiger le bannissement de ce dernier par décision de justice, amenant Henri à ne plus avoir aucun contact avec sa famille jusqu'à ce jour, ce réveillon de Noël, où la famille Vuillard se réunit dans l'espoir de trouver quelqu'un de compatible pour sauver Junon.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis tout ce temps, je me suis enfin relevé de la mort de ma femme. Je vais me remarier. Non, en fait, je plaisante, c'est une blague. Excuse-moi, ma puce, c'est de très mauvais goût. Mais quand j'épouse une femme, ça ne lui porte pas chance, je t'assure. Non, je n'épouse personne, mais j'ai enfin fait mes analyses. Et il se trouve que je suis compatible. Voilà. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter.
Merci.
Raïm.
Nastaro, bien.
Salute. Ce type est odieux.
C'est prosit.
Je ne sais pas si j'accepterai la moelle d'un type comme toi.
Je ne sais pas si je te l'offrirai.
Sans doute le plus grand film de son réalisateur qui parvient adroitement à marier naturalisme, conte, monologue épistolaire face caméra, théâtre et style romanesque, tout cela pour délivrer une fable familiale peuplée de fantômes et de grands méchants loups, pour se conclure de la plus belle des façons, un final que voici, que voilà.
Je me suis réveillée tôt et sans souvenir se pressait dans ma mémoire. Le torse de Claude quand il avait 20 ans et qu'il en paraissait 16. Mon fils Paul, à 6 ans, déguisé de 2 plumes, qui me chuchote « Je suis Pégase ». Mon père, mes frères et Simon, qui joue dans le jardin. Junon va guérir. La greffe à prendre. Je n'ai pas peur de la mort. J'habite désormais le pays inventé par mon fils. Ombreux que nous sommes, si nous avons des plus, pensez ceci, que vous n'avez fait que dormir. Et tout sera réparé.
Musique. Et vous ? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient la neige ?
Couvre-toi bien, chérie, il fait froid dehors.
Pourquoi est-ce qu'il neige, grand-mère ? Et d'où elle vient, la neige ?
Oh, ça, c'est une longue histoire, mon petit cœur.
Raconte-moi.
Non, pas ce soir, il est tard, dors.
Je pas sommeil. S'il te plaît, raconte.
Bon, si tu y tiens. Voyons. Il faudrait sans doute pour commencer que je te parle de ciseaux.
Le réalisateur Tim Burton répond à cette question en 1990 avec Édouard aux mains d'argent. Oui, 1990, un retour vers le passé que vous nous pardonnerez. Nous tenions à soigneusement garder ce film pour la fin. Nous retrouvons donc une représentante en cosmétique qui se rend, un beau jour, dans le sinistre château qui surplombe une petite ville américaine pour y découvrir Edward, un jeune homme joué par Johnny Depp et créé de toutes pièces, possédant des ciseaux aux longues lames acérées en guise de main. Voyant que le jeune homme est inoffensif, elle décide de le ramener chez elle, où il fera la connaissance de Kim, une jeune fille jouée par Winona Ryder. C'est un conte cruel et poétique, largement inspiré de Frankenstein de James Whale. Et si Tim Burton rend ainsi hommage au chef-d'œuvre d'Universal, il rend également hommage à un acteur que nous aimions passionnément, une icône du cinéma d'horreur, dont nous vous conseillons vivement la filmographie et qui signe avec Burton son tout dernier film, Vincent Price.
I know it's a little early for Christmas, Edward, but I have a present for you.
Celui-ci joue l'inventeur d'Edward, un vieil homme aimant qui meurt avant de terminer sa création. Laissant sa créature seule, une créature qui finira par exprimer son amour en taillant des blocs de glace grâce à ses mains d'argent pour que la neige existe et tombe enfin. Quelle émotion. Vous voilà de retour en 2020. Vous êtes sur Radio Bois Blanc. Et c'est la fin de cet épisode sur Noël au cinéma. C'est également le dernier épisode de ce mois de décembre. Nous souhaitons vous remercier d'avoir écouté notre émission, d'avoir partagé avec nous ces moments de plaisir. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de voir les films que vous ne connaissiez pas et fait découvrir autrement vos films préférés. Maintenant, les horloges du Dr Emmett Brown vont bientôt retentir, mais avant, nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël.
Qu'est-ce que j'entends ? Mes horloges ?
Oui, il est 22h.
Fantastique ! Mon expérience a réussi ! Elle retarde très exactement de 25 minutes !
Qu'est-ce que vous dites ? Non mais attendez une seconde, Doc. Vous êtes en train de me dire qu'il est 22h25 minutes ?
Très précise.
Oh la vache ! Moi je vais être en retard